La porteuse de pain, première partie, chapitres 21 à 25. Le juge d'instruction secoua la tête. Incendier le pavillon était inutile, dit-il ensuite, puisqu'il est évident que le feu avait été mis dans l'atelier de menuiserie, plein de copeaux et d'amas de bois, et qu'il devait se communiquer promptement au pavillon où se trouvait le cabinet du patron et la caisse. Riquou devint rêveur. Le magistrat reprit. « Savez-vous combien il y avait d'argent dans la caisse de M. Labrou ?»« Oui, monsieur, car le soir au départ, j'avais établi le compte avec lui. » « La somme était-elle importante ?»« Très importante. » »« Elle se montait ?» à 190 253 francs 60 et 10 centimes. Et dans ma caisse à moi se trouvaient 5 000 francs, mais ils ne sont pas perdus. Me sachant responsable, j'avais eu la prudence de les emporter chez moi. Aujourd'hui, je m'en félicite. La somme dont vous venez de me donner le chiffre était-elle en billets de banque? Oui, monsieur, à l'exception de 3 000 francs en or. Saviez-vous seul ce que contenait la caisse? Riquou réfléchit pendant un instant. « Non, pas seul, monsieur, » dit-il tout à coup. « Deux personnes assistaient à la reddition des comptes. Quelles étaient ces personnes ? Jacques Garot, le contremaître, et Jeanne Fortier. » Le visage du magistrat devint rayonnant. La déclaration du caissier lui causait une joie vive. Riquou poursuivit. « Oui, oui, Jeanne le savait, et Jacques aussi, malheureusement. » Car si le brave garçon a péri, c'est en voulant sauver ses valeurs et les papiers de M. Labrou. Comment Jeanne Fortier se trouvait-elle dans le cabinet du patron, tandis que vous rendiez vos comptes? M. Labrou l'avait sonné pour lui donner des ordres au moment où il allait quitter la fabrique. Vous êtes certain qu'elle a entendu énoncer le chiffre? Oui, monsieur, parfaitement certain. Jeanne Fortier possédait-elle la clé du pavillon? Oui, monsieur, et celle du cabinet? Car c'était elle qui faisait le ménage du patron. Elle avait toutes les clés, d'ailleurs, pour ses rondes. Restait-elle seule la nuit à l'usine? Absolument seule, oui, monsieur. C'était là une chose très imprudente. C'est mon avis, monsieur. Une femme n'a ni la force physique ni l'autorité morale nécessaire pour remplir un emploi de gardienne et de surveillante. Je me suis permis d'appeler sur ce point l'attention de monsieur Labrou. C'est même pour cela qu'il s'est décidé à signifier son renvoi à Jeanne Fortier, qui venait de contrevenir à plusieurs articles du règlement intérieur. Quel était, selon vous, le caractère de cette femme? Il ne valait pas cher, son caractère, monsieur. Jeanne Fortier était hautaine, orgueilleuse, ambitieuse, sournoise et rancunière. Avait-elle reçu quelque instruction? Une instruction tout à fait élémentaire. Cependant, elle affectait des manières et des allures qui ne sont point celles d'une femme d'ouvrier. A-t-elle des enfants? 2. Un petit garçon qui vivait avec elle et une fille en nourrice. Son mari a été tué dans cette usine, n'est-ce pas? Oui, monsieur, mais par sa propre faute, par son imprudence. C'est cependant pour cela que M. Labrou avait donné à Jeanne l'emploi de gardienne. Tout en la renvoyant, il se proposait bien de ne pas la laisser sans ressources. Avant de partir pour Saint-Gervais, il lui avait promis de lui procurer un emploi. Il comptait de plus lui remettre une somme d'argent qui lui permit de vivre en paix jusqu'au moment où elle serait placée de nouveau. Pauvre patron, cette misérable femme lui a témoigné sa reconnaissance en l'assassinant. Le juge d'instruction se tourna vers le procureur impérial et vers le chef de la sûreté, présent à l'interrogatoire, et leur dit. Vous voyez, messieurs, que le doute est impossible? J'avais raison de le croire. La vengeance n'était pas l'unique mobile des crimes commis, assassinats et incendies. Jeanne Fortier se proposait en outre le vol. Après avoir tout préparé pour activer les ravages de l'incendie allumé par sa main, elle est allée dans le pavillon forcer la caisse et s'emparer des valeurs, puis elle a mis le feu. C'est en sortant du cabinet qu'elle a rencontré M. Labroux, revenu de voyage à l'improviste, et qu'elle l'a frappé. Cela vous paraît-il, comme à moi, incontestable et indiscutable? Les deux magistrats consultés exprimèrent une opinion conforme à celle qui venait d'être émise par le juge d'instruction. Puis le procureur impérial demanda: Le coffre-fort était-il de nature à ce que, pour le forcer, il fallut déployer une grande vigueur? Une femme pouvait-elle en venir à bout? Il faudrait savoir cela, car dans le cas contraire, nous serions conduits à admettre que Jeanne Fortier avait un complice. Ricou reprit. Le coffre-fort, tout en fermant bien, n'offrait pas une très grande résistance. C'était une caisse d'un vieux modèle, sans aucun des perfectionnements modernes. J'avais pris la liberté de le faire remarquer plus d'une fois à M. Labroux, qui ne croyait pas au danger. Une femme solidement bâtie comme Jeanne Fortier pouvait parfaitement sans aide opérer l'effraction. Croyez-vous que lorsque le déblaiement des décombres aura eu lieu, on pourra retrouver des débris de cette caisse? Je le crois, car elle était doublée de tôle. De tôle seulement? Oui, monsieur. En tout cas, si on n'a pas volé, on trouvera des petits lingots de métal fondu, puisqu'il y avait 3 000 francs en or. Le procureur impérial se tourna vers le docteur qui l'avait accompagné et lui demanda: Avez-vous pu constater, monsieur, en examinant la blessure, de quelle nature était l'arme qui a tué M. Labroux? Oui, monsieur. Cette arme était un couteau, dont la pointe a traversé le cœur. La mort a dû être instantanée. L'assassin aura frappé de toutes ses forces, reprit le magistrat. Mais une chose me paraît inexplicable. Laquelle? Fit le juge d'instruction. Celle-ci. Jeanne Fortier agissait sans crainte d'être surprise dans la perpétration de son crime, puisqu'elle savait M. Labroux en voyage et qu'elle devait le croire absent pour 2 jours. Pourquoi donc était-elle armée? Monsieur le procureur impérial croit toujours à la présence d'un complice? Demanda le chef de la sûreté. Oui. Une femme me paraît hors d'état d'accomplir seule une telle besogne. Le caissier Ricou intervint. Jeanne Fortier est singulièrement énergique, s'écria-t-il. D'ailleurs, objecta le juge d'instruction, elle pourrait s'être servie d'un couteau pour forcer soit la caisse, soit tout autre meuble. Sa culpabilité d'ailleurs est prouvée par sa fuite. À coup sûr, elle est coupable, mais il est possible qu'elle ne le soit pas seule. Connaissait-on des relations à Jeanne Fortier? Elle était veuve. Avait-elle un amoureux? Plusieurs personnes questionnées à ce sujet répondirent négativement à ces 2 questions. Tout à coup, un mécanicien s'avança jusqu'à la porte de la remise, suivi d'une femme et demandant à parler au magistrat. On les fit entrer. L'homme était Brémond, l'ajusteur. Monsieur le juge d'instruction, dit-il, je vous apporte la preuve que le crime était préparé de longue main et que Jeanne Fortier avait une provision de pétrole. Comment savez-vous cela? Ma femme, que voici, a causé avec la mère François, l'épicière d'Alfortville, qui a vendu le pétrole. Le juge d'instruction donna l'ordre d'aller chercher la mère François et de l'amener. Au bout d'une demi-heure, l'épicière arrivait toute tremblante, car le contact des gens de police épouvante même les innocents. Vous connaissez la veuve Jeanne Fortier? Lui demanda le juge d'instruction. Oui, monsieur, beaucoup. C'était une pratique. Vous vous souvenez de lui avoir vendu de l'huile de pétrole? Parfaitement, oui, monsieur. Il y a 3 ou 4 jours, dans l'après-midi, elle est venue avec son gosse et un bidon en chercher 4 litres que je lui ai servis. Et cela m'a semblé bien extraordinaire. Pourquoi? Parce que la veille, je lui en avais déjà vendu 4 litres, même que je lui en ai fait l'observation. Et elle m'a répondu que son gosse, en jouant, avait renversé le bidon. Et je lui ai dit: Il aurait pu mettre le feu, le gamin. Faut faire attention. Ça flambe si vite, une usine. Quelle est votre opinion sur la veuve Fortier? Je la crois ambitieuse. Quelle raison vous fait supposer cela? La mère François répéta d'une façon presque textuelle au juge d'instruction un entretien dont nos lecteurs se souviennent sans doute, et n'ayant plus rien à ajouter, obtint l'autorisation de retourner chez elle. Un mandat d'amener fut immédiatement lancé contre Jeanne Fortier, et le signalement de la malheureuse femme fut rédigé sur les indications fournies par les témoins pour être expédié à toutes les brigades de gendarmerie du département de la Seine. Monsieur le docteur, ayant dressé son procès-verbal, dit le procureur impérial au caissier Ricou, l'inhumation du corps de Monsieur Labroux est autorisée. Vous vous entendrez à cet égard avec Madame Bertin, qui, au reçu de votre dépêche, s'est mise en route sans le moindre doute. Vous voudrez bien m'aviser de son arrivée. Je vous félicite de votre zèle et de votre dévouement. Le caissier se rengorgea, et les magistrats regagnèrent Paris en laissant deux agents de la sûreté sur le lieu du sinistre. Le même jour, à 1 heure de l'après-midi, un homme jeune encore, bien bâti, coiffé d'un chapeau de fantaisie et vêtu d'un complet de drap gris très correct, sur lequel il avait endossé un pardessus de demi-saison, descendait de voiture dans la cour de la gare Saint-Lazare, payait son cocher et montait les degrés conduisant aux salles où se distribuent les tickets. Cet homme portait en bandoulière un sac de voyage et tenait à la main une légère valise. Il avait la tournure et les allures d'un riche industriel ou d'un commerçant arrivé. La blancheur éblouissante de son linge, ses chaussures élégantes, la fraîcheur de ses gants de Suède à 3 boutons témoignaient des soins qu'il prenait de sa personne. Ses cheveux étaient d'un noir mat et sans reflets, sa figure entièrement et soigneusement rasée. Ce personnage s'avança vers le guichet portant l'indication « Paris au Havre ». Le guichet venait de se fermer. « N'est-ce pas l'heure du rapide pour le Havre, monsieur ?» demanda le voyageur à un employé. « Si, monsieur, mais on ne délivre plus de billets. Le train va partir. » Le voyageur ne témoigna son désappointement que par un froncement de sourcils. « Tant pis, » dit-il simplement. « À quelle heure, je vous prie, part le prochain train pour la même destination ?»« À 6h30. »« Il arrivera au Havre ?»« À 11h05. »« Merci, monsieur. » Le voyageur sortit de la gare par la rue d'Amsterdam. « J'étais sûr de manquer le train, » murmura-t-il. « J'aurais mieux aimé cependant voyager 2 jours. Au moins, on voit son monde. Enfin, je profiterai de ce retard pour manger quelque chose, car j'ai littéralement l'estomac dans les talons. » Il franchit le seuil d'une taverne habituellement fréquentée par les Anglais et les Américains, taverne placée au rez-de-chaussée d'un hôtel, juste en face de l'entrée du chemin de fer sur la rue d'Amsterdam. Un garçon vint à lui et l'accueillit par ces mots. « Monsieur veut déjeuner ?»« Oui, donnez-moi la carte du jour, un indicateur des chemins de fer et ce qu'il faut pour écrire. » Le voyageur alla se placer à une table isolée où le garçon lui apporta les objets demandés par lui. « Pendant qu'on préparera mon déjeuner, » dit-il, « je voudrais envoyer une dépêche. »« C'est facile, le télégraphe est tout prêt. Si monsieur le désire, un employé de l'hôtel y rapportait la dépêche. » « Parfaitement. Je vais l'écrire. » Le garçon se retira et le voyageur, ouvrant le livret Chex à la partie réservée au chemin de fer de l'Ouest, parcourut les pages d'annonces qui s'y trouvaient annexées. Il s'arrêta à la nomenclature des hôtels du Havre. « N'importe lequel, » murmura-t-il. « L'essentiel est de ne pas chercher en arrivant là-bas, et de ne point avoir l'air d'un ahuri qui ne sait où il va. Je ne séjournerai pas longtemps au Havre du reste. Quoique je n'ai absolument rien à craindre, que tout le monde me croit mort dans l'incendie en essayant de sauver la caisse, et que d'ailleurs je sois méconnaissable, il est plus sage de ne pas m'attarder en France. » Ses yeux s'arrêtèrent sur l'indication du premier hôtel placé en tête de la série, et il lut « Hôtel de l'Amirauté et de Paris réunis, Lemel, propriétaire. » « Ça fera mon affaire, » ajouta-t-il. « Autant celui-là qu'un autre, et même mieux qu'un autre, car je vois qu'il se trouve placé en face du quai d'embarquement des bateaux de Southampton. J'en profiterai pour avoir moins à me montrer dans la ville. Le premier bateau me transportera en Angleterre, d'où je filerai au plus vite vers New York. » Le voyageur ferma l'indicateur, prit une feuille de papier, une plume et traça ces mots. « Hôtel de l'Amirauté, Lemel, Havre. Arriverai ce soir de Paris par train 11h05. Prière réservée chambre confortable. Paul Armand. » Il appela le garçon. « Voilà ma dépêche, » dit-il en lui tendant la feuille de papier. « On va la porter tout de suite, monsieur. »« Bien, maintenant servez-moi à déjeuner. » Quelques minutes plus tard, notre personnage commençait son repas avec un entrain qui devait faire supposer chez lui une conscience parfaitement tranquille. Son déjeuner achevé, il ne quitta point la taverne où il était attablé. Il lut les journaux, absorba des pintes de pâle aile, fuma plusieurs cigares, et enfin, voyant l'heure s'avancer, paya sa dépense et alla au guichet de Paris au Havre prendre un ticket de première classe. À 6h30, le train s'ébranla. Jusqu'à Mantes, le voyageur eut un compagnon de route. À partir de Mantes, il se trouva seul, parut fort enchanté de sa solitude, et en profita pour ouvrir sa valise, en tirer divers papiers et les examiner avec une extrême attention. Ces papiers étaient les plans d'une machine dont ils indiquaient avec une précision merveilleuse l'ensemble et les moindres détails. Dans ce voyageur, nos lecteurs ont reconnu déjà, malgré sa transformation et le changement de couleur de sa chevelure, Jacques Garot, le contremaître de la fabrique d'Alfortville, Jacques Garot l'incendiaire, Jacques Garot l'assassin de son patron. Nous ne suivrons point immédiatement ce misérable, mais nous devons expliquer à nos lecteurs comment il n'était pas enseveli sous les décombres de l'usine, ainsi que tout le monde le croyait. Jacques avait crié « Au secours, à moi, je meurs !» après avoir pénétré dans le pavillon en feu pour accomplir en apparence, aux yeux de tous, un acte d'admirable dévouement en essayant de sauver la caisse et les papiers de M. Labrou. Le contremaître était un hardi et rusé coquin, n'hésitant point à jouer le tout pour le tout et à s'assurer l'avenir au péril même de sa vie. Il fallait que personne ne pût douter de sa mort, et que si la voix de Jeanne Fortier s'élevait contre lui, la voix ne fut point écoutée, et les accusations accueillies comme les mensonges les plus noirs, comme les calomnies les plus odieuses. Jacques connaissait à merveille et de longue date la topographie du pavillon. Il savait qu'une fenêtre placée dans l'escalier conduisant à l'appartement de M. Labrou s'ouvrait sur la campagne derrière l'usine. En s'élançant au milieu des tourbillons de flammes et de fumée, il avait déjà combiné son plan. Tout craquait sous ses pieds. Tout menaçait de s'effondrer sur sa tête. Au lieu de pénétrer dans le cabinet, il gravit en trois bonds les marches brûlantes de l'escalier, atteignit la fenêtre, dont les vitres avaient volé en éclats sous l'influence de l'effroyable chaleur, poussa les cris de détresse, et à moitié aveuglé, à demi asphyxié, s'élança par l'ouverture. C'est alors qu'un craquement formidable se fit entendre et que le toit du pavillon et le premier étage s'effondrèrent sur le rez-de-chaussée. « Tonnerre du diable, je l'ai échappé belle !» murmura le contremaître. Il était en rase campagne, sain et sauf, et tandis qu'on le croyait en train de se carboniser sous les décombres, il courait à travers les terres labourées afin de gagner une route sûre. Une heure après, il tombait exténué de fatigue dans un des massifs du bois de Vincennes. « Enfin, se dit-il, je suis sauvé !» Il respira et, certain de n'être point poursuivi, il attendit le jour. Dès les premières clartés de l'aube, il écarta ses vêtements, entr'ouvrit sa chemise et retira les liasses de billets de banque et les papiers volés dans la caisse qu'il portait sur sa poitrine entre le linge et la chair. Papiers et billets de banque étaient un peu froissés, il est vrai, un peu humides. Ils n'en constituaient pas moins la fortune. Jacques Garot eut aux lèvres un sourire d'une expression vraiment diabolique. Il plia soigneusement les produits de son crime, se servit de son mouchoir pour les envelopper, se leva et se dirigea vers Paris. Il ne sentait plus la fatigue. 7 heures du matin sonnaient au moment où il entrait dans la grande ville par la barrière du trône. Ses habits commençaient à sécher, mais ils étaient souillés de boue. Une couche épaisse de terre couvrait ses chaussures. Le contremaître s'arrêta près d'une sellette de décrotteur, se fit brosser à fond et cirer. Ensuite, ayant repris l'apparence d'un ouvrier proprement vêtu, il se dirigea vers une maison de confection, acheta des vêtements et des bottines, puis du linge, puis une valise, dans laquelle il enferma ses emplettes, alla prendre un bain, changea de costume, et se trouva complètement transformé. Sa figure seule demeurait reconnaissable et devait même attirer l'attention à cause de la nuance insolite de sa barbe et de ses cheveux. Jacques entra chez un coiffeur, se fit raser et couper les cheveux. « N'auriez-vous pas de quoi me teindre le poil ? » demanda-t-il ensuite en riant. « Ma couleur rouge n'est point à la mode, et ça me fait du tort auprès des dames. »« Mais si, monsieur, certainement, » répondit le coiffeur. « Et ça tiendra ? 8 jours au moins. Vous n'aurez qu'à renouveler de temps en temps pour entretenir les racines. » Une demi-heure plus tard, le contremaître avait les cheveux du plus beau noir, et en voyant son visage reproduit dans un miroir, il ne se reconnaissait pas lui-même. Jacques Garot, enchanté du résultat obtenu, fit l'acquisition de plusieurs flacons de teinture, visita quelques magasins où il opéra de nouveaux achats en vue du voyage qu'il avait projeté, et se dirigea en voiture vers la gare Saint-Lazare, où nous l'avons vu déjeuner et expédier au Havre une dépêche signée du nom de Paul Armand. Ce nom n'était point de pure invention. Paul Armand avait vécu. C'était un mécanicien, camarade d'atelier et ami de Jacques à Genève, où il était mort. Le contremaître avait conservé le livret à lui confié jadis par son ancien ami. Prévoyant tout et songeant à quitter la France avec Jeanne Fortier, qu'il espérait alors décider à le suivre, Jacques s'était muni de ce livret, pièce suffisante pour lui éviter certains ennuis. Le signalement de Paul Armand, inscrit à la première page, ressemblait à celui de Jacques Garot, sauf la couleur des cheveux et de la barbe. Contremaître, en se faisant raser et teindre, avait complété la ressemblance. Il était donc libre, désormais, de marcher hardiment sur le chemin de la fortune, et, autant du moins qu'on peut être certain d'une chose en ce monde, certain de l'impunité. Rejoignons Jeanne Fortier, que nous avons laissée dans un bois, endormie à côté de son fils, après être allée jusqu'au prochain village chercher un peu de pain et une tablette de chocolat. La pauvre mère, exténuée, dormit près de 2 heures. Quand elle se réveilla, le soleil était déjà haut à l'horizon, et Georges sommeillait toujours, serrant des 2 mains contre sa poitrine son cheval de carton. Jeanne le regarda longuement, et les larmes coulèrent de ses yeux. Puis elle se dit, en s'efforçant de chasser les pensées sombres qui l'obsédaient, « Il ne faut pas pleurer. Il faut avoir du courage. Il faut penser à mes enfants, à l'avenir. » « L'avenir, » répéta-t-elle effarée. « Que peut-il être pour moi? Je ne possède rien, sauf les vêtements trempés que j'ai sur le corps, et dans la poche de ces vêtements, pas un sou. Comment nourrir Georges ce soir? Je veux travailler. Je trouverai une place. Je marcherai encore. J'irai le plus loin possible de Paris. Je tâcherai de ne pas m'arrêter cette nuit. Demain, je frapperai à la porte d'une des maisons du premier village que je rencontrerai, et je demanderai du travail pour donner du pain à mon enfant. Est-ce qu'il a des cœurs assez durs pour me refuser cela ? » Jeanne s'interrompit. Une angoisse nouvelle s'emparait de son esprit. « Si l'on me questionnait avant de m'employer, » balbutia-t-elle, « que répondre ? Si l'on voulait voir mes papiers, je n'en ai point. Que faire ? Enfin, Dieu m'inspirera peut-être d'ici à demain, si je savais où je suis au moins. Si je savais où me conduira la route que je vais prendre. Ce matin, à ce village, j'ai voulu interroger. Je l'aurais dû. Je n'ai pas osé. J'ai eu peur. » En ce moment, Georges fit un mouvement léger. Jeanne se pencha sur lui. « J'ai faim, petite mère, » dit l'enfant en ouvrant les yeux. « Tiens, mon mignon, voici de quoi manger. » Et la jeune veuve tendit à son fils une partie des aliments achetés par elle. Georges les prit, mordit à belles dents le pain et le chocolat, et demanda « Tu ne manges donc pas, toi, petite mère ?»« Non, mon chéri. »« Pourquoi ? Je n'ai pas faim. » Jeanne sentait au contraire les exigences de son estomac vide devenir de moment en moment plus impérieuses. Mais pouvait-elle toucher au peu de nourriture qu'elle gardait pour son fils ? Quand ce peu serait épuisé, comment le renouvellerait-elle si le travail lui faisait défaut ? La pauvre mère s'efforça de ne point songer à cela. Longue, bien longue, interminable lui parut la journée. Elle ne voulait point se montrer en pleine lumière sur la grande route, si près de Paris, et elle voulait aussi que Georges fût complètement reposé. Enfin, la nuit arriva. Madame Fortier donna de nouveau à l'enfant un peu de pain et de chocolat et se mit en marche, allant au hasard, tout droit devant elle. Mais elle avait trop compté sur ses forces. Ses pieds endoloris la soutenaient à peine. Elle fit peu de chemin pendant la nuit et fut obligée de s'arrêter plusieurs fois, la fatigue se joignant à la faim pour l'accabler. Après une halte plus ou moins longue, elle reprenait Georges sur ses épaules et recommençait à marcher, ou plutôt à se traîner péniblement. La nuit s'écoula, le jour revint. Jeanne se trouvait au milieu d'une vaste plaine. Nulle part, un bouquet de bois, propre à l'abriter, ne s'offrait à ses yeux. Quelques paysans, allant au travail des champs, passèrent auprès de la voyageuse. En la voyant si pâle, les traits tirés, les vêtements souillés de boue, ils parurent éprouver à son endroit beaucoup de défiance et peu de sympathie. La jeune veuve avançait toujours, portant Georges endormi. Elle aperçut les maisons d'un hameau. Advienne que pourra, se dit-elle haletante, je m'arrêterai là. Une paysanne allait la croiser. Jeanne l'arrêta pour lui demander. Voudriez-vous me dire, madame, quel est ce village en face de moi? C'est Chevry, près de Bricontrobert, répondit la paysanne. Et elle continua son chemin. Madame Fortier n'en pouvait plus. Ses jambes refusaient décidément de la porter davantage. Elle fut obligée de s'asseoir sur le bord de la route. Les passants, peu nombreux, la regardaient avec une malveillante curiosité. Une petite fille d'à peu près 10 ans, menant paître une vache, fit halte en face d'elle. Jeanne lui adressa ces mots. Dites-moi, mon enfant, dans quelle partie du village de Chevry se trouve la maison du curé? La fillette se retourna vers le village et répondit. La maison de monsieur le curé est la première que vous voyez là-bas, avec une tourelle blanche, un toit pointu et des grands arbres. Merci, mon enfant. Jeanne se leva, prit Georges dans ses bras, et du pas raide d'une somnambule endormie du sommeil magnétique, se remit à marcher. Tout en marchant, elle murmurait. C'est au curé du village que je m'adresserai. Le représentant du bon Dieu aura peut-être pitié de moi. Il ne refusera pas de m'aider, de me conseiller. La demeure du curé de Chevry était une maison déjà ancienne et fort simple, mais bien placée et singulièrement gaie. Le corps de logis, composé d'un rez-de-chaussée, de 2 étages et flanqué d'une tourelle servant de pigeonnier, était entouré d'arbres qui l'enveloppaient d'ombre et de fraîcheur. Devant la maison se trouvait une pelouse semée de massifs et de corbeilles de fleurs qu'on voyait depuis la rue à travers les barreaux d'une grille en fer forgé. Derrière le logis s'étendait un potager assez vaste, bien planté d'arbres fruitiers. Depuis plus de 20 ans, le même curé desservait la commune, dont la population ne dépassait point le chiffre de 400 âmes. L'abbé Félix Laugier était un homme de 58 ans environ, à la figure ouverte et souriante, au regard doux et plein de franchise. Tous ses paroissiens, même ceux qui faisaient profession d'indifférence en matière religieuse, l'aimaient, l'estimaient, le respectaient. Il habitait la cure de Chevry avec sa sœur, âgée de 60 ans, et une domestique. Sa sœur, Madame Clarisse Darrier, veuve depuis 7 années, était venue vivre auprès de lui après avoir perdu son mari, qui la laissait sans enfant à la tête d'une fortune rondelette. Elle avait pour son frère autant de tendresse que de vénération et partageait avec lui les sympathies du pays, car elle employait à faire des œuvres de charité la plus forte partie de ses revenus. Nous prions nos lecteurs de nous accompagner à la cure de Chevry en remontant en arrière de 24 heures, ce qui nous reporte au matin du jour où, après une nuit d'orage, le soleil se levait sur les décombres fumants de l'usine incendiée et où Jeanne Fortier s'endormait dans un bois à côté de son fils. Il était 8h30. Un jeune homme de 23 ans descendit du chemin de fer qui part de Paris à 7h05 et arrive à Bricontrobert à 8 heures. Ce jeune homme, muni de tout un attirail de peintres paysagistes, chevalet se montant et se démontant, pliant, parasol, appuie-main, boîte à couleurs, prit d'un pas rapide et d'un air joyeux la route ombragée de grands arbres conduisant à Chevry. C'était un beau garçon aux traits fins et réguliers, à la physionomie spirituelle et souriante. Une fine moustache d'un ton fauve se retroussait à l'avant-dique sur sa lèvre supérieure. Ses yeux d'un bleu sombre exprimaient l'intelligence et la décision. Un petit feutre mou se posait crânement sur sa tête et s'inclinait un peu vers l'oreille droite. Tout en marchant, il fumait une cigarette qu'il avait allumée en descendant du train. Ce jeune homme se nommait Étienne Castel. Il n'avait jamais connu sa mère. Son père, un négociant du quartier Montmartre, était mort 4 années auparavant, laissant à Étienne une petite fortune qui lui avait permis de se livrer à ses goûts et de suivre la carrière artistique dans laquelle il espérait arriver, à force de travail, à prendre une place honorable et à se faire un nom estimé des connaisseurs. La vocation d'Étienne Castel était véritable. Le jeune homme possédait en outre une sérieuse énergie, une rare persévérance. Aussi, les amateurs de peinture commençaient-ils à apprécier ses tableaux. Tout en marchant d'un bon pas sur la route de Chevry, Étienne admirait la magnificence des teintes chaudes dont l'automne revêtait la nature. Au moment où il entrait dans le village, quelques paysans le saluèrent comme une ancienne connaissance. L'artiste rendit les saluts et poursuivit sa route jusqu'auprès de la maison curiale où il s'arrêta. Là, il agita une sonnette, puis tournant le bouton de la grille qu'on ne fermait jamais à clef, il entra dans le jardin, suivit l'allée sablée qui contournait la pelouse et le presbytère, et gagna le potager. L'abbé Laugier, une bêche à la main, jardinait. Au bruit des pas du nouveau venu, il leva la tête. En apercevant Étienne, il poussa une exclamation de joyeuse surprise, enfonça le fer de sa bêche dans la plate-bande qu'il labourait et vint à la rencontre du jeune homme. Celui-ci s'avança vivement. « Soyez bienvenu, cher enfant !» cria le bon curé en serrant les mains de l'artiste. « Quelle agréable surprise !» Puis ouvrant ses bras à Étienne, il l'attira contre sa poitrine et l'embrassa avec effusion. « Ainsi, fit le jeune homme en souriant, vous me pardonnez, cher monsieur Laugier, l'indiscrétion qui me fait tomber chez vous comme un obus inattendu? Je te pardonnerai cette question absurde si tu me promets que ta visite sera longue. Je vous donnerai 8 jours. 8 jours seulement? C'est trop peu. Je ne puis disposer d'un temps plus long. Eh bien, va pour 8 jours de bonne promenade et de bonne causerie. Et de bonnes parties d'échecs, ajouta Étienne en riant. Nous verrons si tu es plus fort que l'année dernière. Je crains beaucoup de n'avoir fait que peu de progrès. Mais tu dois être fatigué. Pas le moins du monde. Viens te débarrasser de tout ton attirail et dire bonjour à ma chère sœur qui sera très enchantée de te voir. Et que je vais, j'espère, trouver en bonne santé comme vous. Oui, heureusement. Ah, le bon Dieu est bon. Il nous fait la vie douce. En prononçant ces dernières paroles, l'abbé Laugier avait conduit Étienne dans une petite pièce du rez-de-chaussée, où le jeune homme déposa son matériel de peintre. Ensuite, le curé appela. « Clarisse! Clarisse! « Que veux-tu, mon ami? » demanda la veuve du haut de l'escalier. « Descends vite, c'est une visite qui te fera plaisir. Notre artiste est là. « Étienne! » s'écria madame Darrier en descendant vivement l'escalier. « C'est une charmante surprise, mais s'il nous avait prévenus, on aurait pu du moins lui préparer sa chambre. « Justement. » J'ai voulu vous faire une surprise, chère madame, répondit le peintre en embrassant sur les deux joues la sœur du curé. Me voici chez vous pour 8 jours. Ce n'est guère. Mais enfin, tu auras le temps de goûter à mes confitures. As-tu besoin de prendre quelque chose? Non, je vous assure. Nous déjeunerons comme d'habitude à 11 heures. Tu connais ta chambre. Installe-toi. Moi, je vais donner des ordres à Brigitte. Tu as toujours bon appétit? Un appétit de loup, toujours. Et madame Darrier alla s'occuper de corser le menu du déjeuner. Tu me retrouveras au jardin, dit le prêtre à Étienne. Je vais finir ma plate-bande. L'artiste monta son attirail dans la chambre qu'il avait l'habitude d'occuper chaque année, se lava les mains et le visage, puis rejoignit au potager l'abbé Laugier, qui, laissant de côté sa tâche de jardinage, prit le bras de son visiteur, qui l'entraîna sous une tonnelle de verdure, et, s'étant assis, entama l'entretien en ces termes. Combien de choses tu dois avoir à m'apprendre, mon cher enfant, depuis 6 grands mois que nous ne nous sommes vus. Non, en vérité, mon cher abbé, ma vie a été d'un calme plat. Le travail? J'ai travaillé beaucoup, avec ardeur, et par conséquent avec joie. Et les résultats? Satisfaisants au point de vue matériel. Je commence à vendre assez bien. Mais l'argent n'est pas tout. Tu rêves la gloire. Sinon, la gloire, ce qui serait trop ambitieux à mon âge, du moins la notoriété. Mais tu es connu déjà. Pas assez. Je voudrais d'un seul coup me placer hors de pair. Que faudrait-il pour cela? Trouver un excellent sujet de tableau et l'exécuter magistralement. Deux choses bien simples, comme vous voyez, fit Étienne en riant. Tu trouveras peut-être cela ici, mon cher enfant. Je le souhaite, je l'espère presque. Car votre amitié m'a toujours porté bonheur. Je vais demander à Dieu, en disant ma messe, qu'elle te porte bonheur une fois encore. L'abbé Laugier est le type absolu du bon curé. Il avait une âme droite, un esprit élevé. Il était prêtre, non par métier, mais par vocation. Il marchait d'un pas ferme dans la vie, tout à Dieu, tout à tous, et pratiquant sans cesse les trois vertus sublimes, la foi, l'espérance, la charité. Faire le bien, disait-il, voilà le but. L'homme n'est au monde que pour cela. Compagnon d'études et ami très intime du père d'Étienne Castel, il avait vu grandir le fils et reporter sur lui toute l'affection que lui inspirait le père. D'autant plus qu'il reconnaissait chez l'artiste une de ces natures d'élite que rien ne fait dévier de la voie droite. Avons-nous besoin d'affirmer que l'affection d'Étienne pour le prêtre ne le cédait en rien à celle que le prêtre avait pour lui? À 11 heures précises, nos trois personnages se trouvèrent réunis dans la salle à manger. Madame Clarisse Darier était presque riche, nous le savons. Aussi, grâce à elle, la table de son frère se recommandait non par le luxe, mais par un confortable dont il eût été difficile de ne pas se contenter. Étienne mangea de grand appétit, et comme il ne comptait point se mettre au travail ce jour-là, il sortit avec le curé après déjeuner et l'accompagna dans ses visites de charité chez les pauvres et chez les malades. Les deux hommes ne rentrèrent que pour dîner, et une longue partie d'échecs, où la victoire fut disputée chaudement, termina la soirée. Étienne alla se mettre au lit et s'endormit en cherchant un excellent sujet de tableau qui, magistralement exécuté, pourrait, ainsi que nous le lui avons entendu dire, le mettre hors de pair. Le lendemain, il se leva de bonne heure, prépara sa palette, descendit s'installer dans le jardin et ébaucha rapidement une étude de la campagne, à peine éveillée sous les brumes transparentes du matin. Vers 7h30, le prêtre revint de l'église après sa messe. Il trouva Étienne à l'œuvre. « Bon courage, lui dit-il. Je ne suis pas très connaisseur, mais je ne crois point me tromper, en affirmant que cette étude est bonne. Il me semble que tu vois juste et que tu traduis bien ce que tu vois. » Aucun éloge ne saurait être plus flatteur. « Il est du moins sincère. Continue. » L'abbé Laugier alla s'installer sous les marronniers, d'où il pouvait voir l'artiste poursuivant son travail et au besoin échanger avec lui quelques paroles. À l'intérieur, Madame Darier s'occupait des soins du ménage. La servante, Brigitte, donnait à manger aux lapins et aux volailles dans une basse-cour voisine du jardin dont un rideau de troène la séparait. 10 minutes à peu près s'écoulèrent. Un coup de sonnette retentit à la grille. « Une visite ? » fit Étienne. « La porte est ouverte, » répliqua l'abbé. « Les gens qui viennent ici connaissent les habitudes de la maison. On entrera après avoir sonné. » Monsieur Laugier achevait à peine ses paroles quand un nouveau coup de sonnette se fit entendre. « Décidément, c'est une personne étrangère, » dit le prêtre. « Brigitte, » ajouta-t-il en élevant un peu la voix, « allez voir qui sonne, je vous prie. » La servante se hâta d'abandonner poulets et lapins. Elle déposa son balai et courut à la grille. Une femme, épuisée, portant un enfant dans ses bras, était à genoux sur le seuil. Brigitte s'approcha vivement d'elle. « Par pitié !» balbutia Jeanne, que nos lecteurs ont déjà reconnue avec son fils Georges. « Par pitié, du secours, pour moi et pour mon enfant !» Très émue, très attendrie, Brigitte prit la jeune veuve par la taille et voulut l'aider à se relever. Jeanne fit un effort, parvint à se soulever à demi, mais ses forces la trahirent. Elle faillit tomber à la renverse. « Monsieur le curé !» cria Brigitte. « Venez ici, s'il vous plaît. Venez vite !» À cet appel, l'abbé Laugier et Étienne se levèrent précipitamment et accoururent. « Qu'y a-t-il donc, Brigitte ?» demanda le prêtre. « Une jeune femme qui a besoin de secours et qui est en train de s'évanouir. »« Petite maman, où as-tu mal ?» criait Georges en embrassant les joues pâles de sa mère. « Cette pauvre femme et son enfant se meurent de fatigue, » dit Étienne en soulevant Jeanne. « Et peut-être de faim, » ajouta le curé. Brigitte avait pris dans ses bras le petit Georges. Madame Darier, intriguée par les exclamations que nous avons reproduites, accourut à son tour. « Clarisse, ma chère sœur, » lui dit le prêtre, « 2 tasses de bouillon pour ces pauvres créatures, bien vite, je t'en prie, et une bouteille de vieux vin de Bordeaux. La mère et le bébé tombent d'épuisement. Brigitte les servira au grand air, sous les marronniers. » Brigitte suivit Madame Darier, après avoir assis l'enfant sur un banc. Étienne et l'abbé soutinrent Jeanne, qui put se traîner jusqu'auprès de son fils. « Quelques curieux s'étaient arrêtés devant la grille du presbytère et avaient assisté à l'accueil fait aux fugitifs. Quel brave homme tout de même, disait un paysan. Pour donner son argent aux malheureux et pour soulager ceux qui souffrent, il est toujours prêt. Foi de Mathieu, je ne connais pas son pareil. Jeanne était tombée sur le banc près de Georges et plus que jamais semblait défaillante. Étienne avait couru chercher de l'eau fraîche et lui mouillait les tempes pour la ranimer. Madame Fortier ouvrit ses yeux à demi fermés et promena ses regards autour d'elle, cherchant son fils. Elle l'aperçut et tendit les mains vers l'enfant. « Tranquillisez-vous, madame, dit vivement le prêtre, nous allons avoir bien soin de lui. » « Oh, merci, merci, bégaya Jeanne, dont le visage se détendit et dont les larmes coulèrent. « Il a faim, le cher petit. » En ce moment, madame Darier et Brigitte revinrent, apportant de quoi restaurer la mère et le fils. La nouvelle envoyée par dépêche à Saint-Gervais, à la sœur de M. Labroux, par le caissier Ricoux, avait été un coup de foudre pour madame Bertin. Quoique le télégramme fût très laconique, les mots qu'il contenait n'étaient que trop clairs. Madame Bertin ne chercha point à se faire illusion et comprit à l'instant toute l'étendue de son malheur. Mais elle était de nature énergique et ne se laissant pas facilement abattre. Après avoir donné les premiers moments à la douleur, elle se dit qu'elle devait agir sans perdre une minute, ainsi que le lui demandait la dépêche. Il était nécessaire de partir pour Alfortville, elle le savait, elle le sentait. Mais à son immense chagrin se joignait une profonde angoisse. Elle ne pouvait emmener avec elle son neveu bien-aimé, le petit Lucien n'étant qu'à peine convalescent. Donc, il fallait le confier à quelqu'un de sûr. À qui? Le temps pressait. Madame Bertin prit vivement un parti. Elle alla trouver une brave paysanne, sa voisine, dont elle connaissait la conduite exemplaire et la probité, et lui proposa de venir s'installer dans sa demeure pendant son absence, qui sans doute ne serait pas longue. La paysanne accepta, suivit séance tenante madame Bertin, et vint prendre sa place au chevet de l'enfant, qui fondit en larmes quand il apprit que sa tante allait le quitter, mais qui se calma lorsqu'elle lui promit de revenir au plus vite et de lui rapporter un jouet. La sœur de Jules Labroux partit sans trop d'inquiétude relativement à son neveu, mais épouvantée du tableau sinistre qui l'attendait à Alfortville. Ce tableau était en effet effroyable et navrant. La pauvre femme faillit s'évanouir lorsqu'elle se trouva en face de l'usine incendiée et du cadavre de ce frère qu'elle avait vu la veille si plein de vie, de force et de confiance en l'avenir. Ricoux s'était pour ainsi dire installé sur le théâtre du sinistre. Voulant faire du zèle et se donner de l'importance, il avait veillé près du corps et se trouvait là quand arriva madame Bertin. Le caissier prodigua des consolations banales à la sœur de son ancien patron et lui dit ensuite qu'ils avaient à parler d'affaires car il s'agissait de sauvegarder autant que possible les intérêts de l'enfant orphelin. Il raconta dans quelles circonstances on avait trouvé le cadavre de l'ingénieur et l'accusation terrible, en apparence indiscutable, qui pesait sur Jeanne Fortier. « Ainsi, s'écria madame Bertin avec une indicible stupeur, ainsi cette femme, cette malheureuse que mon frère m'avait demandé de prendre auprès de moi pour assurer à la mère et au fils une existence heureuse, aurait conçu le monstrueux projet d'assassiner son bienfaiteur? Est-ce possible? Ne vous abusez-vous pas, monsieur Ricoux? N'êtes-vous point le jouet d'une erreur? Parfois, la justice s'égare. Une femme n'aurait-elle pas été trahie par ses forces? Dans cet assemblage inouï de crimes, il me semble voir la main d'un homme. Les preuves les plus écrasantes se réunissent contre Jeanne Fortier, madame, répondit sentencieusement le caissier. Monsieur le juge d'instruction chargé de l'affaire vous l'affirmera comme moi. » Madame Bertin ne formula point d'objection, mais elle ne se sentait pas convaincue. Le caissier reprit. « Le juge d'instruction vous prie de vous présenter à son cabinet le plus tôt possible. Il m'a chargé de vous le dire. Je vous donnerai son nom par écrit. J'irai. Maintenant, causons des affaires de mon cher et regretté patron. Il avait toute confiance en moi, et j'ose dire que je le méritais. La tenue de mes livres était irréprochable. Ces livres sont détruits? Jusqu'au dernier feuillet, madame. Mais je me fais fort de les reconstituer. J'ai tous les comptes dans la mémoire. Au moment du sinistre, mon frère avait-il de l'argent en caisse? Oui. Une forte somme? Trop forte, hélas! Et tout est perdu? Tout! Alors, nous sommes en face d'un passif considérable. Près de 200 000 francs. 200 000 francs? Répéta madame Bertin avec épouvante. Comment les payer? C'est impossible, puisque je n'ai pas de fortune. Et la mémoire de mon pauvre frère sera insultée. Ceci n'est point à craindre, madame, répondit le caissier. Qui donc insulterait la mémoire de mon cher patron? Ceux à qui sa mort fera perdre de l'argent. Il ne serait pas injuste à ce point. Personne n'ignore que M. Labroux était l'honneur en personne, la probité même. Un crime vient de trancher cette existence toute de travail et de loyauté. On n'accuse pas votre malheureux frère, madame. On le plaint. On plaint aussi son fils, un enfant qui, à cette heure, n'a plus que vous pour appui. Rassurez-vous d'ailleurs, madame, les sommes que devait M. Labroux seront intégralement payées. Par qui? Par les compagnies auxquelles mon regretté patron avait assuré l'usine et son matériel. Ces compagnies sont solides. Elles fourniront des sommes au moins égales à celles du passif. Donc, je vous le répète, tout sera payé, et votre frère ne fera perdre un sou à qui que ce soit. Les compagnies d'assurance sont-elles prévenues du sinistre? Ce matin, à la suite des lettres que j'avais écrites, leurs inspecteurs sont venus dresser procès-verbal. Si, chose qui me semble impossible, on soulevait quelques difficultés, quelques contestations de détails, je vous engagerai à intervenir comme sœur de M. Labroux et comme tutrice de son seul héritier, car le conseil de famille vous nommera certainement tutrice de votre neveu. J'interviendrai s'il le faut moi-même, du moins en laissant ma procuration à l'homme d'affaires de mon frère. Je l'ai vu ce matin, il attend votre visite. Je passerai à son cabinet. Ainsi, tout est perdu, ajouta Madame Bertha avec un soupir. L'enfant de mon frère ne possédera rien. Il lui restera le terrain sur lequel s'élevaient les constructions de l'usine. Ce terrain, sans les constructions, est d'une valeur bien minime et difficilement réalisable. Heureusement, Lucien ne me quittera point, et le peu que j'ai lui restera après moi. C'est le pain assuré. Vous avez l'autorisation de faire procéder au service funèbre de mon pauvre frère? Oui, madame, ce service est commandé pour 3 heures. Madame Bertin prit les mains du caissier et les serra. Je vous remercie, dit-elle, je vous remercie du fond du cœur, de toutes les preuves d'affection et de dévouement que vous donnez à celui qui n'est plus. J'étais très attachée au patron, répliqua le caissier. Il avait toujours été bon pour moi. C'est lui que je regrette aujourd'hui, et non ma position perdue. La conversation fut interrompue par l'arrivée de l'homme d'affaires dont parlait Ricou quelques minutes auparavant. Il venait à Alfortville prendre des renseignements sur les lieux mêmes. Madame Bertin, qui le connaissait, s'entretint longuement avec lui et lui recommanda de défendre par tous les moyens légaux les intérêts de l'héritier. « Faites en sorte qu'on ne soit point obligé de vendre les terrains, » ajouta-t-elle. « On en tirerait peu de choses aujourd'hui et peut-être plus tard mon neveu pourra-t-il faire reconstruire l'usine de son père. » Dans l'après-midi de ce même jour, on arrivait de tous côtés pour l'heure du convoi. Amis, clients, fournisseurs, ouvriers, gens du pays et des environs venaient rendre un dernier hommage à l'homme de bien qu'ils avaient connu, aimé et estimé. Le corps fut conduit à l'église et au cimetière, au milieu du recueillement et de la tristesse de tous les assistants. Madame Bertin se rendit ensuite à Paris avec le caissier, qui l'accompagna au palais de justice, dans le cabinet du juge d'instruction. Ce magistrat les reçut à l'instant même. « Tout d'abord, je dois vous apprendre, madame, dit-il, que le crime effroyable qui vous met en deuil sera puni. Je compte recevoir avant la fin du jour la nouvelle que la misérable femme, dont la culpabilité n'est point douteuse, est aux mains de la justice.